Audiolib présente. Les survivants d'Alex Schulman. Traduit du suédois par Anne Carilla. Lu par Mathieu Buscato. Première partie. La maison. Chapitre 1. 23h59. Une voiture de police se fraye lentement un passage à travers la végétation bleutée sur le petit chemin forestier qui mène à la propriété. La maison est là-bas, isolée sur la pointe, dans la nuit de juin jamais tout à fait noire. C'est une simple maison de bois, bizarrement proportionnée, un peu plus haute qu'il ne le faudrait. La peinture blanche des angles est écaillée. Le bois rouge de la façade sud brûlé par le soleil. Les tuiles sont soudées par la mousse. Le toit ressemble à une peau d'animal préhistorique. Pas un souffle de vent. Il fait un peu frais à cette heure. De la buée couvre le bas des carreaux. Lueur jaune vif, solitaire, d'une fenêtre éclairée à l'étage. En contrebas, le lac lisse et calme, aux rives ourlées de bouleaux. Et puis, le sauna, où les garçons prenaient des bains de chaleur avec leur père les soirs d'été, avant de descendre à l'eau d'un pas mal assuré sur les cailloux pointus, marchant en file indienne, bras écartés pour garder l'équilibre, comme crucifiés. « Elle est bonne !» hurlait papa une fois qu'il s'était jeté à l'eau, et l'éclat de sa voix vibrait au-dessus du lac, suivi d'un silence comme il n'y en avait qu'en ce lieu éloigné de tout. Un silence qui tantôt effrayait Benjamin, tantôt lui donnait la sensation que tout était à l'écoute. Plus loin, sur la rive, un abri à bateau. Le bois a pourri et l'édifice penche vers l'eau. Au-dessus de l'abri se trouve la grange. Les termites ont creusé des millions de trous dans les poutres et des traces de déjection animale vieille de 70 ans maculent le sol en ciment. Entre la grange et la maison, le carré de pelouse où les garçons jouaient au football. Le terrain est en déclivité. Celui qui garde le but en aval doit jouer à contre-pente. Voilà le décor tel qu'il se présente. Quelques modestes constructions sur une tache de gazon, la forêt derrière et l'eau devant. Un endroit inaccessible, aussi isolé aujourd'hui qu'autrefois. Quand on se postait à l'extrémité de la pointe pour regarder au loin, on ne voyait nulle part trace de vie humaine. Quelquefois, ils entendaient passer une voiture sur le chemin de terre de l'autre côté du lac. Le bruit lointain du moteur tournant à faible régime. Les jours d'été, partant sec, ils voyaient ensuite le nuage de poussière s'élever au-dessus de la forêt. Mais ils ne rencontraient personne. Ils étaient seuls en ce lieu qu'ils ne quittaient pas et où nul ne venait. Un jour, ils aperçurent un chasseur. Ils étaient en train de jouer dans les bois et tout à coup il avait surgi, à 20 mètres de distance. Cheveux blancs, vêtus de vert, l'homme glissait sans bruit entre les sapins. Quand il passa devant les garçons, il les regarda d'un œil inexpressif, posa son index sur sa bouche, puis s'enfonça parmi les arbres et disparut. Son incursion demeura inexpliquée, telle une mystérieuse météorite qui se serait approchée de la voûte céleste mais l'aurait survolée sans la toucher. Les garçons n'en ont jamais parlé. Et Benjamin se demande même parfois si cela a vraiment eu lieu. Le crépuscule est tombé depuis 2 heures. La voiture de police descend prudemment le chemin forestier. Le conducteur jette des regards inquiets devant le capot pour voir sur quoi il roule. Il se penche sur le volant et regarde vers le haut, mais ne peut discerner la cime des arbres. Les sapins qui dominent la maison sont prodigieux. Ils étaient déjà énormes quand les garçons étaient petits, mais là, il se dresse à 30-40 mètres dans le ciel. Le père des enfants s'enorgueillissait de la fertilité du sol ici, comme si le mérite lui en revenait. Au début du mois de juin, il repiquait des plants de radis et quelques semaines plus tard seulement, il emmenait les enfants au potager pour leur montrer les rangées de têtes rouges qui émergeaient de la terre. Mais la fertilité est aléatoire. Par endroits, le sol autour de la maison est complètement stérile. Le pommier que papa avait offert à maman pour son anniversaire végète là où il l'a planté jadis et ne donne aucun fruit.